spécialiste de la Guinée-Bissau. À Bissau, justement, cher Mohamed Cissé, journaliste sur place. À Dakar, Paulin-Maurice Toupane, chercheur au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité. Et à Bordeaux, en France, Vincent Fouché, chercheur au CNRS. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Je commence avec vous, cher, vous qui êtes sur place. Est-ce qu'on vit vraiment une ambiance de campagne normale ou bien les Bissau-Guinéens ont plutôt l'esprit à cette crise politique?
Pardon, répétez votre question, monsieur Diane.
Je demandais si en fait, les Bissau-Guinéens vivaient une vraie ambiance de campagne.
Oui, bonsoir d'abord à vos auditeurs. Il se passe une ère de campagne. Les Bissau-Guinéens vaquent à leur occupation tranquillement. Mais il n'y a que le PAIGT, d'après ce qu'on a pu constater, il n'y a que le PAIGT qui mène une campagne vraiment, une campagne qu'on pourrait dire une campagne à l'américaine, quoi. Les autres sont, on peut, comment vous allez dire, ils battent pas de campagne comme ils le veulent.
C'est une position attentiste, c'est ça? Ils attendent de voir ce qui va se passer ou bien.
Voilà. En fait, ils attendent de voir ce qui va se passer, mais le PAIGT, lui, il est en train de battre campagne quand même.
D'accord. Alors, Paulin-Maurice Toupane, pourquoi le président Vaz, à votre avis, a-t-il décidé de limoger son premier ministre alors qu'un compromis avait été trouvé par la CEDEAO pour permettre le maintien de cette élection de cette équipe jusqu'aux élections?
Alors, le député présidentiel limogeant le premier ministre Aristide Gomes évoque une grave crise empêchant le fonctionnement normal des institutions. Il faut savoir que c'est un critère prévu par l'alinéa 2 de l'article 104 de la Constitution qui donne la possibilité au président de la République de limoger le premier ministre en cas de grave crise. Mais la Constitution ne définit pas ce qui est une grave crise. Mais dans son évaluation, le président de la République, José Manuel Valls, semble y inclure un certain nombre d'éléments dont la répression de la manifestation de l'opposition qui a débouché, qui a causé un mort, le trafic de drogue, mais aussi le non-respect par le Premier ministre de ses obligations constitutionnelles. En effet, la Constitution prévoit des réunions entre le Premier ministre et le Président de la République pour discuter des dossiers et de la gestion du pays. Ce sont ces éléments que le président de la République semble inclure dans ce qu'on peut entendre par grave crise institutionnelle. Mais au fond, le fondement de ces décisions qui s'inscrit dans la dynamique de la crise qu'on connaît depuis 2015 en Guinée-Bissau est en réalité la volonté de contrôler le processus électoral qui est actuellement et qui doit être organisé par le gouvernement issu des élections législatives, mais qui est contrôlé en grande partie par le PAIGT. Or, il y a des aspects du processus électoral qui avaient divisé la classe politique. Il s'agit d'une part la volonté que le gouvernement de la République Gomes avait d'inclure les 25 000 électeurs qui avaient été exclus des élections législatives, et aussi la création du nouveau secrétariat chargé des élections dont les attributions n'étaient pas claires aux yeux de l'opposition.
D'accord.
Donc il y a cette suspicion au sein de l'opposition basée sur le fait que voilà, le PSDC est en train de faire des manœuvres pour se procurer la victoire au premier tour.
D'accord. Alors Vincent Fouché, pourquoi en fait depuis son élection en 2014 le président Vaz n'arrive toujours pas à s'entendre avec un premier ministre du PAIGC? Cela a commencé avec Domingos Simões Pereira et pourtant lui-même, le président a été élu sous la bannière de ce parti historique.
Alors, José Mario Vaz avait été choisi comme candidat du PAIGC par tous ceux que Domingos Simões Pereira avait battu au congrès du parti à Cacheu en 2014. Donc au fond, dès le début, l'antagonisme entre les deux hommes était un peu préécrit. Et en fait, ça dépasse de loin les personnes de Vage et de Pereira. C'est vraiment une structure dans la vie politique bissau-guinéenne, au fond. Dès que quelqu'un est élu, en fait, on a un système bicéphale avec un président élu au suffrage universel et puis un premier ministre qui est porté au pouvoir par la majorité parlementaire. Et au fond, la tension entre les deux hommes est un peu structurelle. Et on a vu sous d'autres gouvernements, hein, entre Carlos Gomez Junior et puis Malamba Caissania, à l'époque c'était aussi très compliqué. Enfin, voilà, c'est un peu une structure au fond. Comme c'est le Premier ministre qui contrôle véritablement le gouvernement, mais que le président a quand même un certain nombre de pouvoirs, tous les insatisfaits du gouvernement, que ce soit les gens qui sont les alliés et qui estiment n'avoir pas été récompensés, pas avoir eu les postes que leur qualité méritait, ou que ce soit évidemment les opposants, bah commencent à se rassembler autour du président pour essayer de faire advenir une nouvelle majorité à l'Assemblée, pour essayer de faire basculer le gouvernement en place.
Mais est-ce que cela vous surprend qu'il évoque la drogue, par exemple, pour justifier le limogeage à la drogue? On sait que la Guinée-Bissau, c'est un vrai problème, mais est-ce que cela vous surprend que ce soit une des mesures évoquées?
Alors la drogue est utilisée par tous les acteurs politiques en Guinée-Bissau de tous les côtés depuis le milieu des années 2000, hein, depuis qu'on parle de cette question-là. Au fond, les affaires réelles ou non sont toujours imputées à tel ou tel camp politique. En l'occurrence, dans les deux grosses saisies qui sont survenues récemment, hein, on a des indices, ou en tout cas des soupçons qui ont été formulés en direction de tous les camps, selon évidemment, par les camps opposés.
D'accord. Alors, cher Mahmoud Cissé, la CDAO a donné un ultimatum au nouveau Premier ministre Imbalo pour partir, hein, au risque de nouvelles sanctions. Le président Vaz lui-même est venu avec son propre ultimatum pour l'autre gouvernement. Vous pensez que le président Vaz va reculer au vu de ce que vous constatez sur place?
Bon, hier, en fin de matinée, le représentant de la CDAO ici à Bissau a réagi lors d'une conférence de presse à laquelle j'ai participé. Et il avait donné 48 heures pour que Faustino Imbali fasse démissionner son gouvernement, ou bien que le président José Mario Vaz dissout ce gouvernement-là, que la CDAO juge inédite. Bon, donc l'ultimatum arrivé à terme aujourd'hui, mais pour le moment, bon, rien ne s'est passé, les gens sont sceptiques, et beaucoup de rumeurs courent de gauche à droite. Il y a des radios qui disent que, bon, Mario Vaz a démis son gouvernement dirigé par Faustino Imbali, d'autres disent le contraire. Donc bon, on ne sait pas à quelle radio se fie réellement.
D'accord, donc on va peut-être suivre de près. Alors, Paulin Maurice, le président Vaz, qui était membre du PAIGC et candidat indépendant aujourd'hui, et s'il a pu tenir tête à ce puissant parti, hein, c'est peut-être parce qu'il doit avoir beaucoup de soutien, des soutiens forts, n'est-ce pas?
Alors, au début de la crise en 2015, on était le président de la République de Jean-Marie Vaz, avait un certain nombre de soutiens, non seulement au sein du PAIGC, et là, j'ai cité les 15 députés qui avaient refusé de voter pour le programme du gouvernement de Correa, mais aussi du PS, qui était à l'époque la deuxième force politique du pays, avec 41 députés à l'Assemblée nationale. Mais surtout aujourd'hui, avec l'évolution de la situation et la préparation des élections présidentielles, le président de la République semble tout petit peu isolé, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Alors il a cherché le soutien du PRS, mais ce parti a préféré apporter son appui à Nuno Gomes Nabiam, le candidat de APU-PDGB. Le Marine aussi, qui était l'un des principaux alliés de José Mario Vaz, s'est choisi comme candidat au Maros Yopayumbalo. Donc sur le plan interne, José Mario Vaz semble handicapé parce que n'étant pas soutenu par de grands partis dans le cadre du processus électoral face à des partis comme le PAIGC et le Madem Zetien qui disposent d'appareils politiques solides. D'accord. Et sur le plan international aussi, on sent que la communauté internationale soutient le gouvernement de celui des Kimbali.
D'accord. Alors, Vincent, José Mario Vaz est certainement l'un des rares présidents de la Guinée-Bissau depuis l'indépendance à avoir terminé son mandat de 5 ans, mais sans parti politique. Est-ce qu'il peut tenir plus longtemps?
Je pense que c'est entre autres ce qui explique le risque qu'il prend en bravant la CDAO ainsi, et en violant l'accord qu'il a maintenu au pouvoir après le terme de son mandat. Il n'a effectivement pas de parti. Il vient du PIGC. Hein. Il a fini par en être chassé. Il est en position de faiblesse, assurément. Et il y a un petit côté tenter le tout pour le tout, au fond, hein, pour sa part.
D'accord. Et Cher, quels sont, au vu de ce que vous voyez sur place, quels sont les grands acteurs de, certes, le PIGC contrôle le Parlement, que représente aujourd'hui l'opposition?
Bon, disons que le PIGC est, comme tout le monde le sait, le Parti libérateur. Et pour revenir encore un peu ici, c'est le régime, disons, parlementaire. Et en se mettant à dos le PIGC, le président José Mario Vaz a perdu beaucoup de sa vitesse. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, il ne bat pas campagne. La preuve, il n'est sorti que le samedi pour aller à Gabou pour 30 minutes et encore revenir dans Bissau. Et ce que nous voyons, c'est que c'est comme en défiant la communauté internationale, la CDAO et tout ça, et c'est qu'il se met à dos non seulement le PIGC, mais il se met à dos aussi la communauté internationale.
D'accord. On va aller rapidement avant la pause. Maurice, est-ce que le PIGC, qui est le parti qui a lutté pour l'indépendance, comme le disait Cissé, dirige le pays d'ailleurs depuis, mais c'est un parti aujourd'hui miné par des divisions, n'est-ce pas?
En effet, le PIGC a été dans une certaine mesure secoué par la crise de leadership qui opposait en fait José Mario Vaz et la direction du parti dirigée par Domingos Simões Pereira. Mais depuis le congrès de février 2018 tenu à Bissau, le parti s'est réorganisé autour de Domingos, qui garde maintenant le contrôle. Il y a des révisions du statut du PIGC qui ont été opérées et qui renforcent les pouvoirs de son président, notamment Domingos Simões Pereira. Mais la popularité même de Domingos Simões Pereira dans le cadre de ces élections constitue un atout majeur pour le PIGC.
Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, à Washington Forum. Nous revenons après une courte pause. De Washington Forum, Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités à Bissau, Cher Mahmoud Cissé, journaliste spécialiste de la Guinée-Bissau, à Dakar, Paulin-Maurice Toupane, chercheur au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité, et à Bordeaux, Vincent Fouché, chercheur au CNRS. Alors, à présent, je vous propose quelques-unes des réactions de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On commence par Raymond Lachima à Sankourou, en RDC, qui estime que la crise bissau-guinéenne perdure à cause de l'appétit pour le pouvoir de José Mario Vaz. La CDAO devrait choisir comme médiateur des présidents ou anciens présidents qui respectent les constitutions de leur propre pays. Alors, Abdourahmane Camara à Dakar pense qu'il est important de soigner le mal à la racine. Ces crises à répétition ne datent pas d'aujourd'hui. Les politiciens bissau-guinéens, pour des intérêts égoïstes, sont largement responsables de cette situation. Il est important que ce pays ait des institutions fortes. Pour Alphonse Mbouaki à Kinshasa, la CDAO a du poids dans cette crise, dans cette partie de l'Afrique. Sa médiation peut réussir, d'ailleurs grâce à elle, le Premier ministre tient toujours malgré la puissance de l'armée qui est derrière José Mario Vaz. Et puis Archédic Théodore à Ndiamena écrit « Cette crise politique perdure parce que chacun cherche son intérêt. Le rôle de l'armée dans cette crise, c'est peut-être d'être du côté du peuple. » Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur notre page Facebook. Alors Vincent Fouché, est-ce que le PIGC est victime un peu de son libérateur. Il y a Cissé qui parlait de son statut de parti libérateur, mais est-ce que justement ce n'est pas cela son problème aujourd'hui?
Alors c'est vrai que le PIGC est un parti qui a marqué très fortement l'histoire de la Guinée-Bissau. Et d'ailleurs, le sigle, l'emblème du PIGC est aussi le drapeau du pays, ce qui est un petit peu particulier tout de même. Et si on regarde la liste des candidats à la présidentielle, hein, pas moins de 4 des principaux candidats sont issus du PIGC, ont été des responsables importants du PIGC. Donc 3 sont sortis hein, et maintenant on se présente contre le candidat du PIGC. Et c'est un parti qui a quasiment gagné toutes les élections en Guinée-Bissau.
Tout à fait.
Et de fait, c'est pour cela que ce parti suscite aussi de l'anxiété, hein, de l'inquiétude dans une partie de la classe politique qui au fond se méfie de son hégémonie.
Et la grande inconnue, c'est l'armée. Depuis le coup d'État de 2012, elle est restée dans les casernes, mais n'est pas absente, pour ainsi dire.
Oui, alors votre auditeur disait que l'armée soutenait José Mario Vage. On a vu que Vage a appelé l'armée à aider son nouveau Premier ministre à prendre le contrôle des ministères. Apparemment, l'armée, en tout cas pour le moment, hein, n'a pas bougé. Donc on a l'impression que l'armée, effectivement, a quand même, à la suite du coup d'État de 2012 et les sanctions, les difficultés économiques et puis l'arrestation aussi par la DEA américaine d'un de ses responsables, on a l'impression que l'armée s'est quand même assagie et préfère essayer de rester autant que possible en dehors du jeu. D'autant qu'au fond, hein, en échange de cette distance, elle obtient des avantages. Elle est traitée plutôt bien, au fond, par les autorités civiles qui la craignent toujours un peu et donc la cajolent toujours un peu.
D'accord.
Jusqu'à présent, l'armée est restée prudente. Il faut aussi quand même mentionner la présence d'une force de la CDAO, hein, une petite force d'environ 500 hommes, qui est présente depuis longtemps, qui connaît bien le terrain, qui a des contacts dans l'armée et puis qui peut faire passer des messages.
Mahmoud Cissé, est-ce qu'il y a auprès des populations des préoccupations que l'armée pourrait à un moment ou à un autre intervenir dans cette crise plutôt ouvertement?
Non, je ne pense pas que l'armée va intervenir, parce qu'aujourd'hui l'armée est devenue une armée professionnelle. D'ailleurs, le chef d'état-major général, depuis un certain temps, ne prend pas les appels du président de la République. Et il a demandé à ses hommes de rester en dehors de ça. Et ce qu'il a recommandé, quand le président lui a demandé d'aider son nouveau gouvernement à occuper les différents ministères, il a carrément dit que non, l'armée ne se mêle pas de ça, mais que c'est une affaire policière. Donc, que la police n'a qu'à s'occuper de ça. C'est qui démontre vraiment que le chef d'état-major ne veut pas s'initier. Il ne veut pas limiter l'armée dans ce jeu politique.
D'accord. Et Maurice, vous, quelle est votre lecture de la situation? C'est vrai que depuis l'indépendance, l'armée a été omniprésente dans toutes les crises dans ce pays, mais depuis 2012, elle est restée assez calme, si on peut le dire ainsi. Est-ce que ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne s'intéresse pas au tiraillement politique?
Je suis tout à fait d'accord avec les facteurs évoqués par les collègues, mais je pense que l'armée aussi, il y a une sorte de lassitude au sein de l'armée et de la population de façon générale qui subissent le plus les conséquences de ces crises politiques à répétition en Guinée-Bissau. Et je pense que l'armée, depuis 2012, s'est inscrite dans une dynamique d'interférence dans la vie politique bissau-guinéenne. Bien sûr, il y a des facteurs dissuasifs qui sont présents sur place, hein, la récente valeur qui a présence de l'économie, la pression de la communauté internationale avec les menaces de sanctions. Voilà, c'est des facteurs qui dissuasifs, mais il y a une sorte de lassitude aussi au sein de l'armée qui veut certainement une stabilité du pays.
D'accord. Et Vincent, on a souvent parlé de la réforme de cette armée. Vous pensez que c'est cette réforme-là qui porte ses fruits ou c'est autre chose?
Il faudrait regarder dans le détail s'il y a lieu ou pas. Effectivement, l'armée est quand même très, très discrète. Je ne suis pas nécessairement convaincu que la réforme ait été très loin. Et je pense que justement, d'une certaine manière, pour ménager l'armée, on n'a pas poussé la réforme trop loin. Mais je pense que ce sont d'autres facteurs, effectivement, hein, Maurice a raison. Il y a même chez les militaires, au fond, il y a cette impression, notamment dans les rangs les moins élevés, hein, cette impression que le jeu, au fond, n'est pas un jeu très productif. Et qu'il faudrait peut-être à un moment essayer d'institutionnaliser tout ça, d'avoir un régime qui fonctionne et qui n'est pas comme ça dans une sorte de guerre politique permanente qui empêche l'amélioration de la gouvernance, le développement, les investissements publics.
On n'a pas beaucoup parlé du rôle de la CEDEAO dans cette affaire qui a été très important aujourd'hui. Comment voyez-vous cette médiation ?
Alors, la CEDEAO a récupéré le dossier en 2012, pardon, après le coup d'État, a été très importante dans la transition. Alors, l'intervention de la CEDEAO a été très critiquée à l'époque par les autres acteurs internationaux qui ont vu comme une forme d'appui donné à l'armée, qui était responsable du coup d'État. En tout cas, quoi qu'il en soit, depuis, ce qu'on voit, et notamment depuis l'élection de 2014, c'est que la CEDEAO fait quand même avancer le dossier chaque fois qu'il y a un blocage. La CEDEAO intervient, essaye de régler les problèmes, pose des principes. Et puis, à chaque fois, le président Vage est venu essayer de mettre un caillou là dans la machine de la CEDEAO pour un peu dérailler le type de solution que la CEDEAO essaye de porter. Mais on a quand même, c'est vrai, un niveau d'attention important. Et puis, par ailleurs, il faut mentionner, la CEDEAO a remporté une victoire non négligeable en Gambie. En début de l'année 2017, et donc il y a quand même du côté de la CEDEAO le sentiment qu'une forme de confiance, quoi, qu'ils peuvent être capables sur certains dossiers de faire avancer les choses.
D'accord. Et vous, Mahmoud, à Bissau, est-ce qu'il y a un certain optimisme quant à la médiation de la CEDEAO, vu qu'il y a d'ailleurs un sommet extraordinaire ce week-end à Niamey?
Oui, c'est l'espoir, c'est ce qu'attend tout le monde, que ce soit les acteurs, que ce soit la population. Ils attendent la décision de la CEDEAO pour pouvoir voir de beaucoup plus clair. Mais la question qu'on se pose, est-ce que le président José Mario Vaz ira à Niamey? C'est toute la question, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand la délégation de la CEDEAO est arrivée avec en sa tête le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui était le chef de la délégation, avec le président de la commission Brou, il n'a reçu que le ministre des Affaires étrangères. Il a boudé les autres. Et ça n'a pas plu à la CEDEAO du tout. Mmh. Donc maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'il ira à Niamey? Mmh. Parce que il disait qu'il devait aller à Niamey avec Faustino Mbali, et la CEDEAO a refusé en lui disant de respecter l'ordre constitutionnel, parce qu'il ne reconnaît pas Faustino Mbali. Ce qu'il reconnaît, c'est Aristide. Donc Aristide a quitté aujourd'hui Bissau pour Niamey, mais le président partira pas. That is the question.
D'accord. Alors, on va terminer par peut-être une prédiction. Maurice, vous qui êtes un observateur de la scène politique à Bissau, vous pensez que l'élection du 24 novembre aura lieu?
Alors, tous les acteurs internationaux poussent l'organisation de cette élection, qui sont en quelque sorte perçus comme étant une élection qui peut faire sortir l'État de cette situation de crise. Et je pense que ces élections sont nécessaires pour la Guinée, mais elles ne vont pas mettre fin
à la crise en Guinée. Et vous, Vincent, vous êtes optimiste qu'il y aura élection le 24 novembre?
À chaque fois, au fond, j'ai l'impression qu'on est arrivé au terme du processus et que la CEDEAO a posé des guides assez clairs pour la solution qu'elle estime que la Guinée-Bissau doit emprunter. Et à chaque fois, un nouvel incident vient interrompre mes prédictions. Donc j'avoue que je suis tenté de rester prudent maintenant.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous mes invités. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet voafrique.com et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.